Chapitre 38. Bon Dieu ! Souffla Paul. Les cinq hommes, déployés à une vingtaine de mètres du bâtiment, en molestaient un sixième, vêtu comme eux d'une combinaison et d'une veste de treillis militaire. Ahmed, dont les arcades sourcilières et les lèvres avaient éclaté sous les coups. Ahmed, qui lançait des regards désespérés en direction de Paul et d'Edmé. Les autres le frappaient sans proférer un cri, sans hâte, méthodiquement, visant les points névralgiques. Il ne semblait pas savoir que deux flics étaient planqués dans la bergerie. Edmé déverrouilla le cran de sûreté de son pistolet sans demander à Paul son accord. Il avait pris sa décision, au risque d'affronter l'ensemble de la bande. Pas question d'abandonner à ses bourreaux celui qui avait défié sa hiérarchie et s'était mis en danger pour délivrer deux collègues inconnus. La pensée de Sylvaine ne l'en dissuadait pas. Elle l'encourageait. Elle ne voulait pas d'un amour froid, pas d'un homme en cendres. Rien à voir avec l'héroïsme et autres conneries. Il s'agissait seulement d'entretenir le feu, de foncer dans les chemins ouverts par la vie. Que Paul le suive ou non, ce n'était pas son problème. Il guetta le moment propice. Ahmed avait roulé sur les gravillons, maculé de sang, et les cinq hommes s'étaient octroyé une peau cigarette. Ils portaient leurs armes, fusils d'assaut, pistolets mitrailleurs en bandoulière. C'étaient des professionnels aux réflexes aiguisés, des mercenaires qui menaient des guerres sales dans des pays oubliés, des types qui tuaient comme ils respiraient. Edmé estima qu'il pourrait en abattre deux avant que les autres réagissent. Il lui faudrait ensuite louvoyer en continuant de tirer au jugé, en espérant ne pas être touché par une rafale. Pas mal d'inconnus donc, mais la vie n'allait pas sans risque. Il choisit ses deux cibles, répéta mentalement la succession de gestes à accomplir, poussa doucement la porte, prit une profonde inspiration, passa le bras par l'entrebâillement, visa la tête du mercenaire qui se trouvait à sa gauche, pressa la détente, se rua aussitôt dans l'espace d'une dizaine de mètres entre la bergerie et le mur d'un bâtiment. Plusieurs scènes se superposèrent dans son champ de vision avec une netteté saisissante. L'effondrement de l'homme qu'il avait visé, la surprise des autres, brève mais suffisante pour lui laisser le temps de tirer sur sa deuxième cible, le corps ensanglanté d'Ahmed qui remuait faiblement sur les cailloux blancs. Il fonça droit devant lui, bifurqua sur sa droite, aiguillonné par un cliquetis, tendit le bras derrière lui, sans cesser de courir, pressa encore la détente à trois reprises à l'aveuglette, un bruit métallique, une balle s'écrasant sur les pierres de la bergerie, un autre choc plus sourd, un gémissement, une bordée de jurons, le staccato d'une rafale qui souleva des gerbes de terre et de cailloux sur ses talons. Il changea brusquement de direction, cavala cette fois vers sa gauche, vers l'angle du mur de la bergerie. Deux détonations consécutives retentirent dans son dos, des aboiements rauques, rageurs. Il risqua un coup d'œil par-dessus son épaule, entrevit la silhouette de Paul devant la porte béante et des corps effondrés à ses pieds. Son équipier avait jailli de la bergerie et exploité l'effet de surprise pour abattre les derniers mercenaires, deux d'après les détonations. Le regard exorbité de Paul volait d'un corps à l'autre, le pistolet luisait au bout de son bras tendu. Quatre mercenaires reposaient inertes. Le dernier remuait comme un insecte maladroit. Edmé revint sur ses pas et se pencha sur Ahmed, qui respirait avec difficulté. Le sang commençait à coaguler dans ses narines et sur ses lèvres tuméfiées. « Tu peux te lever ?» Edmé interpréta le mouvement de tête d'Ahmed comme un acquiescement. Il lui glissa le bras sous l'aisselle et l'aida à se remettre debout. Paul continuait de surveiller le mercenaire agonisant. « Putain » marmonna-t-il, « on se croirait en guerre !» Appuyé sur le bras d'Edmé, Ahmed se pencha pour cracher du sang.
« On est en guerre !»
murmura-t-il, après s'être essuyé la bouche d'un revers de manche. Élocution difficile, mots prolongés en râle.
« La guerre est permanente. Maintenant, elle est privée. Elle est partout. »
« Ils ont appris que tu étais infiltré ?» Ahmed grimaça. Il fallut quelques secondes à Edmé pour s'apercevoir que c'était un sourire.
« Même pas. Faut pas rester là. D'autres risquent d'arriver.
On va où ?
On prend une caisse. On fonce. »
« Je croyais qu'ils surveillaient toutes les issues. »
« Pas le choix. Faut récupérer leurs uniformes. Leurs armes. »
Ils traînèrent les corps dans la bergerie et entreprirent de dévêtir ceux qui s'approchaient des gabarits de Paul et d'Edmé. Le sixième de groupe désigna l'agonisant qui poussait des gémissements à fondre l'âme. « On l'achève ?» Ahmed laissa tomber un regard brûlant de haine sur les cadavres des mercenaires. « Il n'est plus dangereux. Pas la peine de gaspiller une balle. » Il lâcha quelques mots en arabe, d'une voix sèche. Ses facultés lui revenaient, et avec elles, sa colère, sa détermination.
« Ces enfoirés m'ont raconté toutes les saloperies qu'ils ont faites, là où ils se sont battus. Ils en rigolaient. Lui au moins,
Il saura ce qu'est la souffrance avant de crever. Edmé et Paul retirèrent leurs vêtements et enfilèrent les combinaisons, les treillis et les rangers plus ou moins tachés de sang. Les échanges de coups de feu n'avaient pas donné l'alerte dans la propriété, couverts par le grondement d'une tondeuse à gazon ou d'un autre engin.
« Qu'est-ce qu'il te voulait ?» insista Edmé.
Ahmed s'essuya de nouveau les lèvres et le nez avec un bout de tissu arraché à un treillis, fixant son interlocuteur de ses yeux bruns et brillants.
« J'ai un gros défaut, on peut même parler d'un vice. Je suis joueur. J'ai perdu pas mal de fric avec ces gars-là, et comme j'avais pas de quoi les payer et qu'ils en avaient leur claque de mon baratin, ils ont décidé de se rembourser. Si vous n'étiez pas intervenu, je serais peut-être plus de ce monde, ou alors ils m'y auraient laissé avec des doigts, une oreille ou un autre morceau en moins.
« Tu as failli foirer ta mission parce que tu peux pas t'empêcher de jouer ?» s'étonna Paul.
« C'est ça, mon pote. C'est exactement ça. »
Ahmed avait adopté une posture et un ton provoquant.
« Sauf qu'avec ce qui vient de se passer, la mission... elle est définitivement foirée. Reste plus qu'à se tirer. »
« Tu as dit l'autre fois qu'il n'y avait pas de gouvernement, seulement des factions, des groupes aux intérêts contradictoires, » dit Edmé. « Pour quel groupe travailles-tu ? » Ahmed ramassa un pistolet mitrailleur et en vérifia le chargeur. Il grimaçait, il ne maîtrisait pas le tremblement de ses mains. Des gouttes de sang s'écoulaient de ses lèvres et de son nez.
« Le groupe qui se veut légitime. Ils se prétendent tous légitimes, remarque. Disons que celui-là me paraît le mieux correspondre à l'idée que je me fais de la démocratie. »
« Qu'est-ce qu'ils comptent faire de l'invention ?»«
Ceux qui la contrôleront, contrôleront la vie. »
« Rien que ça ?» Ahmed remisa le PM dans une poche de son treillis et désigna les corps des mercenaires d'un geste du bras.
« L'enjeu secret de cette guerre, c'est l'immortalité. Ni plus ni moins. »
Une moue de perplexité gonfla les joues d'Edmé.
« On est et on meurt, l'un ne va pas sans l'autre. »
« Le corps vieillit et meurt, d'accord. Mais l'esprit, l'âme... Imagine qu'on ait trouvé le moyen de le transférer dans un autre corps. Un corps en pleine santé. Un corps cloné. »
Ahmed marqua un temps de silence, les yeux rivés sur l'agonisant.
« Lui, par exemple, on pourrait projeter sa conscience dans un nouvel organisme, sauvegarder sa mémoire. » Un peu comme des données informatiques copiées sur un disque dur.
« Si elle peut vraiment faire ça, c'est une putain d'invention !»
s'exclama Paul. Le ronronnement de l'engin d'entretien s'interrompit et fit place à un silence ouaté.
« Je me suis débrouillé pour les attirer devant la bergerie, » reprit Ahmed à voix basse.
« Mais je n'étais pas sûr que vous interviendriez. »«
On avait une dette, » protesta Edmé. « Tout le monde ne rembourse pas. Moi le premier !» Je me serais pas foutu dans cette merde, sinon.
On va se la chercher, cette caisse, gronda Paul en brandissant un fusil d'assaut. Je tiens pas à faire de vieux os dans le secteur.
D'après Ahmed, les garages se trouvaient de l'autre côté de la cour. Il leur faudrait traverser un espace découvert et déjouer la vigilance des vigiles et de leurs chiens. Pas facile, mais faisable à condition de garder son sang-froid. Il devrait ensuite démarrer une voiture sans les clés, mais ça, Paul savait faire, et oui, il avait connu une adolescence un peu... difficile dans son sud natal, puis foncer vers la sortie de la propriété en espérant ne pas tomber sur un barrage. Ils s'élancèrent, après avoir vérifié les chargeurs de leurs armes. Edmé avait opté pour un automatique qui lui paraissait à la fois puissant et maniable. Le soleil levant peinait à percer la brume qui emmitouflait le ciel. Le moteur de l'engin d'entretien se remit à pétarader, masquant les autres bruits. Les trois hommes contournèrent la bergerie, longèrent le mur de pierre d'une autre construction. Débouchèrent sur la cour. Au fond, la maison semblait encore plongée dans un demi-sommeil. Une trentaine de mètres les séparaient des annexes qui servaient de garage. Peu de monde dans les allées gravillonnées, des vigiles tenant leurs molosses en laisse, quelques mercenaires occupés à fumer en compagnie d'hommes de Calixte. Ahmed les salua d'un hochement de tête, tandis qu'Edmé et Paul regardaient droit devant eux. Ils franchirent sans hâte et sans encombre la moitié de la cour, puis une voix puissante retentit dans leur dos.
« Salah ! Salah !»«
Mon nom de mercenaire, » murmura Ahmed, sans desserrer les lèvres. « Bougez surtout pas. »
Un vigile s'avança vers eux, face ronde, cheveux ras, barbiche fine, arcade sourcilière proéminente, carrure de sumo. Le genre à vous arracher la tête d'un revers de main. Son chien, un doberman équipé d'une muselière, grognait et tirait comme un damné sur la laisse, l'obligeant à s'arc-bouter sur ses jambes pour le maîtriser. La crosse de son énorme revolver dépassait de l'étui de cuir passé dans sa ceinture.
Les Irakiens te cherchaient, Salah.
Les yeux du vigile s'attardèrent sur le nez et les lèvres de son vis-à-vis.
Ils t'ont trouvé, on dirait.
Le sourire d'Ahmed s'acheva en grimace.
Il y avait quelques malentendus. On les a levés.
Le regard du vigile se posa à plusieurs reprises sur Edmé et Paul, impassibles. Edmé avait gardé la main sur la crosse de l'automatique, glissée dans une poche de son treillis. La tension lui crispait la nuque. Les autres, dans les allées, ne leur prêtaient pas attention. Le grondement du moteur absorbait leur voix et des bruits indistincts en provenance de la maison. Le Doberman tirait toujours sur sa laisse et grognait en sourdine.
« Serait peut-être temps de lever aussi les malentendus qu'il y a entre nous, » reprit le vigile.
« Je ne peux pas rembourser tout le monde d'un seul coup, » rétorqua Ahmed, les yeux baissés sur le molosse.
« Faudra attendre un peu. »
Le vigile secoua la tête d'un air buté.
« C'est que j'ai besoin de fric et plus trop de patience, Salah. »
Ces enfoirés d'Irakiens m'ont totalement rincé. »
Sans quitter Ahmed des yeux, le vigile se pencha légèrement pour caresser le flanc de son chien.
« Ça m'embêterait, tu vois, de le lâcher sur toi. Tu serais vraiment pas beau à voir.
Il est pas si cool que les Irakiens. Disons que je te laisse jusqu'à demain soir pour me payer. Après, t'auras plus un moment de tranquillité. »
Ahmed écarta les mains en signe de conciliation.
« Parfait, mec, tu l'auras demain soir, ton fric. »
« Vaudrait mieux pour toi, Salah. »
Le vigile s'éloigna de son allure dandinante en traînant son molosse derrière lui. Ahmed fit signe à Edmé et Paul de se remettre en marche. Le sixième de groupe n'attendit pas d'être entré dans le bâtiment pour demander à voix basse
« C'est quoi cette histoire d'Irakien ?»
Ahmed se retourna furtivement pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre. La plupart de ces types ont fait la guerre en Irak. Les armées privées ont gagné des fortunes dans les conflits du Moyen-Orient.
« Et tu lui dois combien, ce gorille ?»
Quelque chose comme 10 000 euros, une broutille par rapport à ce que je devais aux autres.
Ils traversèrent un premier bâtiment, croisèrent deux autres vigiles qui les regardèrent passer d'un air indifférent, entrèrent dans une salle en enfilade où étaient garés un 4x4 et 5 ou 6 berlines. Paul choisit l'une des plus anciennes, une BMW noire série 7. Un modèle qu'il avait livré un nombre incalculable de fois dans sa jeunesse.
« Tu n'as jamais été serré ?» demanda Edmé, les yeux rivés sur l'une des deux portes, tandis qu'Ahmed surveillait l'autre.
« Si j'avais eu un casier, j'aurais jamais pu entrer dans la police, » répliqua le sixième de groupe, en fourrageant dans les fils sous le tableau de bord.
Il parvint à la démarrer au bout d'une trentaine de secondes, s'installa au volant et donna 3 coups d'accélérateur pour faire grimper le moteur en régime. Ahmed pressa un bouton, le portail automatique se souleva en silence et dévoila le chemin gravillonné qui rejoignait l'allée centrale, une cinquantaine de mètres plus loin. Edmé s'assit sur la banquette arrière, tandis qu'Ahmed s'installait à la place du mort. Paul accéléra brutalement à la sortie du garage.
« Du calme !» glapit Ahmed. « Si tu roules tout de suite comme un taré, les autres vont se douter de quelque chose !»
Le sixième de groupe poussa un soupir d'agacement et leva le pied. Edmé tenait l'automatique contre sa cuisse. Il gardait son calme, malgré les vagues incessantes d'adrénaline qui le battaient jusqu'aux extrémités des doigts. Sa pensée restait accroché à Sylvaine. Il ne savait pas s'il avait un avenir avec elle, il s'en foutait. Il baignait en elle, totalement. Pas besoin d'habiller le présent de désirs, de projets, de rêves. Il lui suffisait de toucher son âme. Le soleil levant inondait la cour de sa lumière rasante, enflammant les dernières écharpes de brume qui enroulaient buissons et arbustes. Ils avancèrent au ralenti vers l'allée centrale qui traversait la clairière dans le prolongement de la cour et s'enfonçait au loin dans la forêt.
« Bordel !»
Ahmed tendit le bras. Deux 4x4 fonçaient côte à côte sur l'allée centrale en direction de la maison. Paul recula sur le chemin d'accès au garage pour les laisser passer.
« T'accélères !» hurla Ahmed. « T'es dingue, ils vont nous rentrer dedans !»« Pas de ce côté, de l'autre ! Faut essayer de les semer en passant par l'arrière de la maison ! Il y a un chemin de terre dans la forêt !»« Mais pourquoi tu... Ils ont été prévenus ! Fiche ça, bordel !»
Les 4x4 roulaient portes ouvertes. Des hommes en armes sur les marchepieds pointaient leurs fusils d'assaut sur la BMW, immobilisé au milieu du chemin.